Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 43. Jean, chapitre 1er, verset 43. Jésus se rend à cet instant en Galilée. Et là, il fait la rencontre de Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui a écrit Moïse dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Ben viens et vois !» Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un juif dans le cœur duquel il n'y a aucune fraude. »« D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël repartit et lui dit « Mais Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. À la fin du XVIIIe siècle, les églises en Europe pensaient que si Dieu devait un jour se révéler aux nations de la terre les plus lointaines, il se débrouillerait par lui-même. Et donc, elles n'avaient que peu de pensées, que peu de vision pour la mission. C'est alors que le Seigneur suscita un serviteur, William Carey, et il plaça dans son cœur un appel pour la mission. Et il le chargea de partager cet appel missionnaire avec les églises de son temps. Et dans un message, il leur a laissé une parole qui est demeurée célèbre. Il leur dit « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu. » Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu. C'est exactement la pensée de Jésus. Lorsque celui-ci, rencontrant Nathanaël, lui dit « Tu as cru, tu verras de plus grandes choses. » C'est aussi ce qui leur confirma à la fin de son ministère, quelques heures avant de mourir sur la croix, alors qu'ils étaient réunis dans la chambre haute, Jean 14, verset 12, il leur dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, il fera de plus grandes choses. » Et si à cet instant, les disciples avaient vu de grandes choses en suivant Jésus depuis 3 ans, des guérisons, des délivrances, la multiplication des pains, des résurrections, Jésus marchant sur les eaux, il ne se doutait pas que bientôt, remplis du Saint-Esprit, ils accompliraient à leur tour les mêmes œuvres et des œuvres même encore plus grandes comme le Seigneur leur avait déjà annoncé. Jésus, à cause de leur foi, venait d'ouvrir les fenêtres du ciel au-dessus de son Église. Aujourd'hui encore, ces fenêtres sont ouvertes. Aujourd'hui encore, il est dans la volonté de Dieu de nous bénir par des grandes choses. Dieu veut et Dieu peut faire encore de grandes choses parmi son peuple et avec son peuple. Et comme William Carey le disait aux églises de son temps, nous aussi, nous devons l'entendre, nous devons nous attendre à vivre et accomplir de grandes choses avec notre Dieu. Et pour moi, ceci n'est pas une exception, ce devrait être la vie chrétienne normale. Ce qui est anormal, c'est de ne pas voir de grandes choses. Puisque Jésus a dit, puisque tu as cru, tu verras de grandes choses. Notre vie devrait être marquée par les grandes choses que Dieu veut accomplir. Alors ce matin, vous le comprenez, nous allons parler de ce qui est grand avec Dieu et des grandes choses que Dieu veut faire. Nous allons d'abord dire, c'est évident que Dieu est grand et qu'il fait de grandes choses. Et nous verrons, ça sera mon dernier point, mon troisième, que Dieu veut faire de grandes choses pour nous et encore plus avec nous. Alors je vous ai parlé de mon premier point, Dieu est grand, et le troisième, Dieu veut faire de grandes choses pour nous et avec nous, et je ne vous ai pas encore mentionné mon second point, et celui-ci consiste à dire que, avant de pouvoir faire de grandes choses avec nous, il est d'abord nécessaire que Dieu nous amène dans sa vision des grandes choses, et qu'il change notre façon de regarder la vie et la vie chrétienne. Dieu est grand. C'est sa nature. Dieu est grand. C'est aussi son caractère. Dieu voit en grand et il aime faire les choses en grand. C'est une démonstration de sa puissance, mais c'est aussi une démonstration de sa générosité. Le cœur de Dieu est débordant. Débordant d'amour, débordant de vie, débordant de grâce. Et quand Dieu fait les choses, il les fait abondamment. Et la création en est le premier témoignage. Job, chapitre 5, verset 9, il est dit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Et citant ce verset, la première chose qui me vient à l'esprit parlant de la création, c'est cet univers qui nous entoure. L'étendue des cieux témoigne de la volonté de Dieu de faire de grandes choses, tellement grandes, qu'on pourrait se questionner de savoir si elles ne sont pas surdimensionnées. Notre galaxie, qui rassemble donc les étoiles les plus proches de notre Soleil, compte 100 milliards de soleils. Les astronomes évaluent le nombre de galaxies dans l'univers à 200 milliards. Alors on pourrait dire, Seigneur, n'est-ce pas surdimensionné? Est-ce bien utile? Est-ce bien raisonnable? N'est-ce pas quelque part une débauche de moyens? N'est-ce pas un gaspillage de ressources? Tant d'étoiles, tant de mondes, tout ça pour une seule planète habitée? Oui, parce que jusqu'à présent, on n'a pas démontré qu'il y avait de la vie ailleurs. Tout ça pour 7 milliards d'individus, mais 7 milliards d'individus comme vous et moi, qu'est-ce que cela face au nombre d'étoiles et au nombre de galaxies dans tout cet univers? Seigneur, quand tu crées, c'est surdimensionné. Maintenant, je voudrais vous dire que dans sa volonté de nous bénir, Dieu est surdimensionné. Les choses que Dieu veut nous donner sont surdimensionnées par rapport même à nos besoins. Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Non pas la vie juste et nécessaire, mais la vie en abondance. La question est de savoir, avons-nous la foi pour voir et vivre ces choses? Dieu est grand, il est prolifiquement grand. Cette grandeur s'est manifestée dans la création, mais encore plus dans sa relation avec les hommes, notamment dans l'histoire du salut. Le salut que Dieu nous donne est un grand salut. L'Épître aux Hébreux parle d'un si grand salut. Considérons le salut que Dieu nous offre. Le salut en Jésus-Christ n'est pas un salut pour un peuple, c'est un salut pour toutes les nations de la terre. Le salut en Jésus-Christ n'est pas un salut pour une génération, c'est un salut pour tous les siècles. Ce n'est pas un salut pour quelques hommes ou femmes très religieux, c'est un salut pour tous ceux qui croient, peu importe leurs pensées, leurs actions. Ce n'est pas un salut partiel, conditionnel. Ok, je veux bien te pardonner, mais fais des preuves. Ce n'est pas ainsi que Dieu parle. Quand Dieu accorde son pardon, il accorde un plein pardon, un pardon qui est garanti, scellé dans le sang de Jésus-Christ. Le salut que nous trouvons en Jésus-Christ n'est pas un salut qui nous contendrait dans une salle d'attente. D'ici quelques années, tu pourras peut-être t'approcher de Dieu. Quand on t'appellera, tu pourras venir. Non, le salut en Jésus-Christ fait de nous des enfants de Dieu. Parce que l'aboutissement du salut, la grandeur du salut en Jésus, c'est que Dieu ne nous laisse pas comme des esclaves. Il nous appelle ses enfants. Et il fait de nous des héritiers, au même niveau que son Fils Jésus-Christ. C'est un salut qui lève toute condamnation, mais qui nous offre la vie éternelle. C'est un salut qui nous ouvre les portes du ciel. Les provisions, les bénédictions de Dieu, le cœur de Dieu, l'amour du Père pour chacun d'entre nous. C'est un salut à travers lequel le Seigneur répand son esprit abondamment sur tous ceux qui croient. C'est un salut à travers lequel le Seigneur distribue ses dons et ses talents les plus puissants. Voilà le salut. C'est un grand salut parce que Dieu est grand. C'est sa nature. Dieu voit grand. Et fait en grand, c'est son caractère, c'est sa mesure, ou plutôt, c'est sa démesure. Dieu est grand, et il continue de faire de grandes choses. Mais son désir, c'est de nous emmener avec lui dans sa vision des grandes choses. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 20, il est écrit que Dieu montrait à Jésus les grandes choses qu'il devait accomplir. Eh bien, je crois que c'est la même chose pour nous. Dieu est prêt à nous montrer de grandes choses. Mais pour cela, il est nécessaire qu'il élargisse notre vision, qu'il change même notre façon de regarder les choses et la vie. Considérons Abraham, Genèse chapitre 15. Ça fait une dizaine d'années qu'Abraham et Sarah ont quitté le pays de Charan pour se rendre en Canaan. Et il y a dans leur cœur une espérance, celui d'avoir une postérité. 10 ans d'attente, mais aucun enfant n'est encore là. Mais Abraham ne faiblit pas dans la foi, il espère toujours en Dieu. Dieu vient le visiter et le Seigneur lui dit: tu as été fidèle, Abraham. Ta récompense sera très grande. Et Abraham, se tournant vers lui, considérant un instant son âge et celui de son épouse, lui dit: Seigneur, je m'en vais sans enfant, tu ne m'as pas donné de postérité. Alors, au verset 5, il est écrit que Dieu le conduisit dehors. Et il lui dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, et l'Éternel le lui imputa à justice. Des milliers d'étoiles, des milliers de constellations, autant de promesses de la part du Seigneur dans laquelle Abraham crut. Vous savez, je crois qu'il est parfois nécessaire que Dieu nous sorte de notre tente. L'attente de nos raisonnements, l'attente de notre imagination, l'attente de notre petit monde, l'attente de nos craintes, l'attente de notre religiosité, qui nous sorte de cette tente pour nous conduire dehors et nous dire: lève les yeux, regarde vers le ciel, compte les étoiles du ciel si tu peux, admire la beauté de ces étoiles, et tu verras quelles sont les grandes choses que je veux faire pour toi. Dieu veut nous montrer de grandes choses, mais il doit nous sortir de nos limites. Et il doit changer notre mentalité. Il doit purger, ce mot est fort, mais je crois qu'il est nécessaire. Il doit purger nos cœurs de tout ce qui est religieux. Et l'un des mots dont le christianisme français est le plus affecté, c'est petit. Nous vivons à la mode petit. Parce qu'il n'est pas facile d'être chrétien en France, c'est vrai. Mais nous avons fait de ce mot le superlatif de notre vie chrétienne. Nous l'avons élevé, ce qui est beau, ce qui est petit est extraordinaire. Il faut voir, et il faut être petit, 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 parce qu'on pense que dans le petit, c'est là qu'il y a le spirituel. Mais nous avons besoin d'être purgés de ça, parce que Dieu n'est pas petit. Dieu aime les petits pour les élever, mais Dieu est grand. Et il voit les choses en grand, et il fait les choses en grand. Dieu a de grandes choses à nous montrer. Pour cela, il nous appelle à regarder les choses avec un nouveau regard, avec les yeux de la foi. Et un point que je voudrais partager avec vous, c'est celui-ci. C'est qu'il nous faut sortir d'une foi raisonnable. Seigneur, je veux te demander des choses raisonnables. Je ne veux pas trop te demander. Ça ne serait déraisonnable, ça ne serait pas bien. Tu vois, Seigneur, je suis sage. Je te demande juste ce qui est nécessaire. Et vous savez, la foi raisonnable, c'est une foi sans saveur. C'est une foi sans relief, c'est une foi tiède. Et il n'y a rien de plus dommageable pour la foi que la raison. À force d'être raisonnable, nous vidons la foi de sa substance, de sa puissance. Dieu n'est pas raisonnable. Dieu est déraisonnable. Dieu n'est-il pas déraisonnable dans la création? Pourquoi tant d'étoiles, de constellations, de galaxies? Dieu n'est-il pas déraisonnable dans son salut? Qu'il accorde le pardon des péchés à l'incrédule, au rebelle, soit, mais qu'il fasse de lui son héritier, qu'il fasse de lui l'objet de son affection et de son amour. N'est-ce pas déraisonnable? N'est-ce pas déraisonnable de considérer que le salut que Dieu nous donne, ce si grand salut, nous est donné par grâce? N'est-ce pas déraisonnable? N'est-ce pas déraisonnable de considérer l'amour de Dieu pour les hommes? Dieu n'est-il pas déraisonnable dans son désir de nous bénir? Nous avons besoin d'introduire de la déraison dans notre foi. Nous sommes trop raisonnables. À vouloir être trop sages, nous finissons par être sans force, sans saveur. Dieu cherche des gens déraisonnables, parce que ce sont les gens déraisonnables qui vont rentrer dans la vision de Dieu pour leur vie. Mes frères et sœurs, si nous n'avions pas eu une dose de déraison quelques années en arrière, nous nous serions contentés de dire, « Seigneur, merveilleux, la salle de culte est pleine le dimanche matin, nous sommes bien, tout va bien, l'église est pleine, puisque tu nous as donné une salle de cette contenance, gloire à Dieu, c'est parfait. » Mais nous avons été un peu déraisonnables. Et nous avons dit, nous allons commencer un deuxième culte. Et puis quelques années après, nous avons été encore plus déraisonnables. Et nous avons introduit un troisième culte. Et puis prenant goût à la déraison, nous avons dit, Seigneur, implantons une église. Et la déraison devenant comme une seconde nature, nous avons dit, bien, démarrons un quatrième culte. Alors nous aimons la déraison. Et je n'ai pas envie de devenir raisonnable. J'ai envie d'être toujours plus déraisonnable. Parce que je crois que Dieu a encore de plus grandes choses pour nous, pour ma vie. Et je veux cette part de déraison. Parce que cette part de déraison m'amène dans la dimension de mon Seigneur. Dieu a de grandes choses à nous montrer. Et il nous appelle à regarder les choses de la vie selon sa mesure, selon sa démesure. que ce soit pour l'Église, pour ma vie, pour ma famille, pour mon engagement dans l'Église, pour mon travail. Dieu m'appelle à voir les choses selon sa vision, c'est-à-dire en grand. Dieu est prêt à nous montrer de grandes choses, des choses qui dépassent même notre entendement, ce que nous connaissons. Nous connaissons ce verset de Jérémie 33, verset 2, où le Seigneur dit au prophète, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu voulait annoncer à Jérémie des choses. Alors il dit, « Allez, prie-moi, invoque-moi, et je te dirai des choses qui sont cachées, que tu ne connais pas, des grandes choses. » Et il dit la même chose à chacun d'entre nous. Et il cherche des hommes, des femmes qui vont l'invoquer avec le désir de voir quelque chose de grand. Quand Abraham a levé les yeux vers les cieux, peut-être commença-t-il réellement à compter les étoiles. On pense que, à vue d'œil, sauf si on habite à Paris, on peut compter 3000 étoiles. Mais Abraham ne savait pas. Nous le savons. Enfin, parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on a vu les photos. Mais lui ne savait pas que 3000 étoiles, c'était rien. C'était rien. Mais qu'au-delà de ces 3000 étoiles, il y en avait des milliards et de milliards qui étaient cachés. Il voyait 3000 taches de lumière dans le ciel noir de Canaan, mais il n'imaginait pas tout ce qu'il pouvait y avoir dans ce ciel. Les constellations, les nuages de gaz, les amas de galaxies, tous ces mystères, toutes ces puissances qui sont là. Et Dieu nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne peux même pas compter parce que tu ne les vois pas. Des choses que tu ne connais pas, des choses dont tu ne soupçonnes même pas l'existence, des choses dont tu ne soupçonnes pas la portée, l'étendue, la nature, la puissance, des choses que je tiens en réserve pour celui qui invoque mon nom. Alors, Seigneur, je veux être de ceux qui invoquent ton nom et qui disent, Seigneur, montre-moi. Montre-moi ces grandes choses inconnues que tu caches pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour mon service, pour mon église, pour ton royaume, pour ce pays. Montre-moi ces choses. Ouvre mes yeux. Élargis ma mentalité. Maintenant, Dieu ne se contente pas. Il ne veut pas simplement nous montrer ces grandes choses. Il veut les amener dans notre vie. Parce que Dieu veut faire de grandes choses pour nous. Dieu veut faire de grandes choses pour nous. Psaume 126, au verset 3, il est dit que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Et nous serions nombreux à témoigner ce matin des grandes choses que Dieu a faites pour nous. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Je rends grâce à Dieu pour les grandes choses qu'il a faites pour moi. Il m'a permis d'étudier dans la plus grande école de sciences politiques aux États-Unis. Il l'a permis, et je peux témoigner que c'est un effet de sa grâce. Il m'a donné la joie, le bonheur de le servir dans cette merveilleuse assemblée. Et croyez-moi, Esther l'attestera, et je sais que mon Didier pense la même chose, c'est un sujet de réjouissance, d'action de grâce quotidien devant le Seigneur, que de le servir Jésus-Christ au milieu de vous. Maintenant, je vais vous dire que la plus grande chose qu'il m'a accordée, elle est là au premier rang, mais j'insiste pas trop, sinon elle risque... Ah oui, c'est vrai, elle me dit aujourd'hui spécialement, il y a ma belle-maman et il y a ma maman, donc il ne faut pas que je les oublie. Voilà. Le psaume 126 dit aussi, nous étions comme ceux qui font un rêve. Avez-vous déjà rêvé devant les grandes choses que Dieu a faites? Elles étaient tellement grandes. Que vous dites, mais c'est pas possible. C'est un rêve. J'étais dans une voie sans issue, dans une situation difficile. Tout n'était que larmes autour de moi. Et puis tu as agi. Tu m'as accordé ton secours. Et tu m'as accordé une puissante et merveilleuse délivrance. Et j'ai l'impression de rêver. Mais non, ce sont des grandes choses que tu as accomplies pour moi. Alors voyez-vous, il ne s'agit pas simplement de voir des grandes choses qui demeureraient inaccessibles. Le Seigneur ne veut pas simplement nous montrer une galerie, un musée des grandes choses. Et nous, nous serions devant disant, oui Seigneur, c'est merveilleux, mais ça me paraît si lointain. Le Seigneur veut amener ces grandes choses dans notre vie. Il ne veut pas qu'elles soient simplement comme des promesses inaccessibles. Alors, ne nous contentons pas simplement d'espérer de grandes choses de la part de Dieu. Mais comme William Carré le disait, attendons-nous à recevoir et à vivre de grandes choses de la part de notre Dieu. Dieu veut faire de grandes choses pour nous. Le salut est une grande chose. La guérison est une grande chose. La délivrance de passion est une grande chose. Mais que dire encore? Que dire de la restauration d'un couple? Que dire de la réconciliation familiale? Mais Dieu veut aussi agir d'une manière grande et puissante dans notre vie professionnelle, dans les études de nos enfants. Et lorsque un soupire après l'œuvre de Dieu, Dieu est prêt à lui ouvrir des portes. Et quand on dit « Seigneur, mais je ne suis rien, je n'ai pas de moyens, mon nom est inconnu », Dieu est capable de nous mettre en relation avec les gens les plus puissants. Dieu est capable de nous donner les moyens financiers les plus inattendus. Dieu est capable de susciter une promotion, de nous ouvrir les portes d'un concours. Mon épouse pourrait témoigner, et elle en rend grâce aussi quasiment tous les jours, la manière dont le Seigneur lui a ouvert les portes pour un travail. Et elle a vu la main de Dieu diriger toutes choses, les grandes choses que Dieu a faites pour elle. Et elle pourrait dire, j'ai l'impression aussi de rêver, mais non, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Maintenant, je crois aussi que Dieu est capable, ici même à Paris, de nous ouvrir les portes d'un grand bâtiment qui nous permettrait peut-être d'être un peu moins déraisonnables en essayant d'avoir un peu moins de culte et de regrouper davantage de personnes, ce qui nous aiderait quand même. Mais maintenant, je vais vous dire, nous devons croire que les grandes choses que nous avons vues ou vécues jusqu'à présent ne sont rien par rapport à ce qu'il peut faire. Avez-vous déjà vu 3000 étoiles? Avez-vous compté 3000 étoiles? Il y en a des milliards encore derrière. L'apôtre Paul écrit, c'est peut-être un des versets les plus extraordinaires du Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ou dans certaines versions imaginons. » Ce verset nous dit que nous avons accès à la mesure de Dieu, à la démesure de Dieu, à l'infini, à l'incommensurable de Dieu. Un infini qui se situe bien au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, imaginons. Je vous pose ces questions. Qu'avez-vous jamais osé demander à Dieu? Je vais vous dire, vous n'avez pas demandé suffisamment. Vous n'avez pas demandé trop parce que Dieu est capable de donner plus. Et autre question, qu'avez-vous jamais imaginé un instant, mais sans oser le demander à Dieu, comme pensant, Seigneur, pardonne-moi, c'est trop fou. Pardonne-moi, Seigneur, c'est trop excessif. Je vais vous dire, rien n'est excessif. Nos rêves les plus fous, nos projets les plus grands ne sont rien en comparaison de ce que Dieu est capable de faire. Cependant, l'apôtre Paul dit ceci, il est très clair, Dieu peut faire. Dieu fera en fonction de notre foi. Abraham leva les yeux vers le ciel, il regarda les étoiles et il crut Dieu. Il crut Dieu et Dieu lui imputa justice. Et le Seigneur nous sort de notre tente et nous dit « Regarde maintenant les choses d'une nouvelle manière. » Nous pourrions dire « Seigneur, mais ces étoiles sont bien lointaines. Ces étoiles, Seigneur, sont trop nombreuses pour moi. » Et si nous réagissons comme ça, avec une foi raisonnable, nous passons à côté de la bénédiction de Dieu. Mais si nous regardons à cela en disant « Seigneur, ces étoiles sont trop nombreuses pour moi. Ces étoiles sont trop inaccessibles pour moi. Mais pour toi, Seigneur, elles tiennent à peine dans le creux de ta main. Alors j'ai confiance en toi. Et Seigneur, c'est par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit, non pas par ma force, non pas par ma puissance, mais par le Saint-Esprit, que ces choses s'accompliront. Dieu le met sur notre compte. » Dieu veut faire de grandes choses pour nous, mais il a un désir encore plus grand, c'est de faire de grandes choses avec nous. Jésus annonça d'abord à ses disciples qu'il verrait de grandes choses. Et très rapidement, ils les virent. Puisqu'une semaine plus tard, ils se retrouvèrent ensemble à Cana. Là, dans ce village, on célébrait des noces. Malheur, plus de vin. Et la fête bat son plein. Il y avait là, dans un côté, 6 jars, 6 grands vases de 100 litres, remplis presque, je crois, de 2/3 de mesure d'eau. Et ils étaient réservés, usage religieux, aux Juifs pour leurs ablutions. Et nous savons l'histoire et comment Jésus permit que cette eau se transforme en vin. Quelle grande chose! Est-ce bien raisonnable, Seigneur? Est-ce bien raisonnable de transformer 600 litres d'eau en 600 litres du meilleur vin? Nous verrions cette chose, nous dirions, Seigneur, c'est une débauche. Mais Jésus est ainsi. Quand il fait des choses, il les fait en grand. Et donc, avant de les quitter, 3 ans plus tard, il leur dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Jean 14, 12. Et oui, quand les disciples entendirent cela, ils étaient loin de s'imaginer, eux, qui pour la plupart n'avaient passé leur vie que dans cette province de Galilée, autour du lac de Tibériade, ils étaient loin de penser que bientôt ils franchiraient les mers. Ils franchiraient les frontières, ils franchiraient les nations pour aller porter l'évangile de Jésus-Christ à des peuples qui n'avaient jamais entendu parler du Dieu de la Bible. Ils étaient loin d'imaginer que, comme Jésus, bientôt, ils se tourneraient vers cette jeune femme en lui disant « Tabitha, lève-toi !» Et à l'instant même, elle ressusciterait comme il l'avait vu faire avec Jésus. Ils étaient loin d'imaginer que l'un d'entre eux irait là, au bas du bâtiment, vers cet jeune homme qui était tombé depuis le haut de l'immeuble et le relever d'entre les morts, comme Jésus l'avait fait avec la fille de Jaïrus. Ils étaient loin d'imaginer qu'ils iraient un jour témoigner devant les plus grands rois de la terre. Jésus n'avait témoigné que devant Pilate, le gouverneur romain. Jésus n'avait témoigné que devant Hérode, le roi de Galilée. Mais l'apôtre Paul est allé témoigner devant César, à Rome. Et Pierre, et Paul, et les autres apôtres ont fait des œuvres plus grandes encore que celles que Jésus avait faites. Le Seigneur leur avait annoncé cela. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Les œuvres qu'il a préparées pour nous ne sont pas petites, elles ne sont pas restreintes, limitées, comptées, elles sont grandes, puissantes, étendues, surprenantes. Posons cette question à Dieu. Seigneur, qu'as-tu préparé pour ma vie? Quelles sont les grandes choses, plus grandes encore que celles que nos pères ont accomplies? Quelles sont les grandes choses que tu as préparées pour ma famille? Quelles sont les opportunités de travail et les moyens ensuite de témoigner de toi? Seigneur, quel service pour ta gloire, quel époux, quelle épouse merveilleuse, quelles études, quels enfants, quels projets, mon Dieu, quelles sont les grandes choses que tu me permettras d'accomplir. Dieu veut faire de grandes choses avec nous, mais rappelons-nous toujours qu'il en sera fait selon notre foi. La foi ouvre les cieux, la foi touche le cœur de Dieu, et c'est à travers notre foi que Dieu nous annonce et nous montre les choses qu'il cache afin que nous les accomplissions. Et c'est par la foi et sans faiblir dans la foi comme Abraham que nous les verrons s'accomplir dans nos vies. La foi n'est pas faite pour les petites choses. Les petites choses, les hommes peuvent les faire. La foi est faite pour déraciner les montagnes. La foi est la puissance de Dieu pour déraciner les montagnes, pour faire de grandes œuvres, des œuvres que les hommes ne peuvent pas faire, mais que seul Dieu peut accomplir. Alors je dirais, soyons audacieux, soyons un peu moins raisonnables, et croyons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, change notre vision. Change notre mentalité. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous contenter de regarder sur notre compte Facebook ou sur YouTube des vidéos nous montrant ce qui se passe dans les campagnes d'évangélisation dans tel ou tel pays d'Afrique ou d'Asie. Des multitudes se rassemblent, on jette en l'air les béquilles, les fauteuils roulants sont délaissés, les boiteux sautent de joie, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Nous ne voulons pas simplement, Seigneur, regarder ces choses. Nous voulons les vivre. Amen. Nous voulons les vivre ici en France. Nous ne voulons plus vivre d'après le registre des petites choses. Nous voulons vivre d'après les grandes choses que Dieu a préparées. Amen. Dieu est grand et il voit les choses en grand. Ce n'est pas un tort de faire pareil. Invoquer Dieu pour voir des grandes choses, pour faire de grandes choses, ce n'est pas une manifestation d'orgueil, de vanité. C'est le désir de mener une vie normale, selon la mesure de Dieu. Attendons-nous à avoir de grandes choses de la part de Dieu dans nos vies. Et demandons au Seigneur la force pour tenter de grandes choses pour lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je crois que dans le ciel, il y a des choses extraordinaires. Non pas les cieux, mais les cieux des cieux. Je crois que dans les cieux des cieux, Dieu a déjà préparé des livres, des chants, pourquoi pas des films, pourquoi pas des applications qu'il va inspirer à ses serviteurs pour leur permettre de faire des grandes choses afin d'influencer notre société. Je crois que dans le ciel, Dieu a déjà préparé des technologies, des entreprises qu'il va confier à ses serviteurs pour qu'il puisse changer les choses dans notre génération. Je crois même que Dieu, dans le ciel, réserve des places auprès de ceux qui nous gouvernent, des places d'influence pour ses enfants, afin que nous puissions changer le cours de notre nation. Dieu veut faire de grandes choses. Il veut nous amener dans sa vision, parce qu'il veut les faire pour nous, et il veut les faire avec nous. Amen. Seigneur, je veux voir comme Abraham a vu et te croire. Alléluia. Amen. Soyons prêts à vivre de grandes choses.